Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, bon début d'après-midi. J'espère que tout se passe bien chez vous. Marianne Paquette au micro pour les 30 prochaines minutes. Vous écoutez l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. La Fondation du Grand Montréal rendait public le 6 octobre dernier un rapport sur la santé des résidents de la grande région de Montréal. Des chiffres recueillis qui couvraient différents secteurs, dont secteur économique, secteur social, secteur environnemental. Donc, assez complet, assez vaste comme bilan. Et tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, Yvan Gauthier, lui, président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal, sera là pour nous faire le bilan de Signe Vitaux 2015, le nom de ce portrait des résidents de la grande région métropolitaine. Et puis, saviez-vous que même si on n'est pas médecin, pharmacien ou tout autre spécialiste de la santé, on peut aider les chercheurs à mieux comprendre et prévenir le développement de certaines maladies chroniques, comme par exemple le diabète, le cancer, Alzheimer, maladies cardiovasculaires. Depuis 2009, via un projet scientifique intitulé Cartagène, il y a 40 000 Québécois de 40 à 69 ans qui ont été choisis au hasard à travers tout le Québec et qui ont accepté de se soumettre à un examen médical, un questionnaire également, qui visait à rendre compte de leur mode de vie, de leur boulot même, et ainsi de contribuer à un projet scientifique, donc qui me semble très, très intéressant. Pour en savoir davantage, je parle à l'instant avec Catherine Boileau, elle qui est épidémiologiste. Bonjour Catherine.
Bonjour.
On rigolait parce que épidémiologiste, c'est pas un mot facile à dire. Je vous le dis, hein, je me suis pratiquée pour arriver à pas buter sur le mot. Catherine, on pourrait faire une émission complète sur qu'est-ce que l'épidémiologie. Aujourd'hui, on parle du projet Cartagène qui, je le disais tout à l'heure, est une façon pour le grand public de contribuer à la science. Et ça, déjà, c'est assez galvanisant. Mais en même temps, d'un autre côté, pour les chercheurs, c'est une façon de créer un portrait scientifique du Québec, un portrait génétique, en fait, pour être plus précis, de notre population. Et ça, ça a vraiment de vastes possibilités.
Oui, tout à fait. En fait, le projet Cartagène a été... je dirais que l'origine du projet vient du Dr Claude Laberge, là, qui est un généticien, qui est un peu le père des programmes de dépistage urinaire là, chez les enfants, les nouveau-nés. Et puis, en fait, je pense que son idée, c'était de créer une plateforme qui allait faciliter la recherche et puis qui allait aussi nous permettre d'avoir un portrait de la distribution des risques génétiques dans la population. Mais c'est vraiment un grand projet de santé publique pour faciliter l'innovation dans la recherche.
Mais ça vient de quel constat? Est-ce que ce docteur Laberge, donc, s'est dit « OK, je manque d'informations sur la santé des Québécois, les gens sont malades, je ne sais pas pourquoi. » Est-ce que ça venait d'une inquiétude?
Bien, je suis pas sûre que ça venait... vraiment d'une inquiétude. Ça venait, je pense, plutôt d'un besoin qui était à combler. En fait, faire une cohorte populationnelle, c'est vraiment un investissement. C'est un des devis épidémiologiques les plus puissants pour mieux comprendre les risques dans une population. Ça prend énormément de personnes et puis plusieurs années, en fait. Donc, il faut suivre les gens longtemps parce qu'on les suit tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas développé la maladie d'intérêt ou qui est arrivée par exemple, un décès. Donc, c'était vraiment un investissement. Et puis, je pense qu'on n'était pas capable, en fait, on n'est du moins pas encore capable de répondre à certaines questions qui sont très pertinentes dans la santé. Pourquoi certaines personnes qui ont certains facteurs de risque développent ou développent pas une maladie? En fait, c'est des questions qui sont difficiles à répondre si on n'a pas une cohorte de cette envergure-là.
Donc, il y a eu une première intervention, je dirais, en 2009, c'est-à-dire vous avez commencé à recueillir des données. Bon, quelles étaient ces données-là, Catherine?
On avait à la base, en fait, un questionnaire qui est assez, je dirais, classique, là, avec les facteurs de risque communs, en fait. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous... la consommation d'alcool? On a une bonne idée du portrait de santé au point zéro, si je peux dire. Et puis, on a la capacité de suivre les gens dans le temps par deux modes, soit par recontact direct, que ce qu'on va entreprendre l'année prochaine, ou bien via les bases de données médico-administratives, donc les bases de données qui sont recueillies là, lors d'une hospitalisation ou l'utilisation des services médicaux. Donc, à cause de ça, on est capable de vraiment avoir un portrait à long terme. Au baseline, ou au temps zéro, ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on mesurait certains aspects de la santé. Donc, ce n'était pas vraiment un examen médical proprement dit, mais on avait une idée, par exemple, de la santé cardiovasculaire des gens. On avait des mesures de densité osseuse, des mesures de fonction pulmonaire, etc.
Et ça vous a permis de constater des chiffres un petit peu effarants. Une personne sur quatre fait de l'hypertension,
oui.
Une personne sur deux, le cholestérol.
Oui.
Ça, on ne pouvait pas soupçonner ça.
Tout à fait. Donc, ce qui a été, en fait, je pense, le plus révélateur, c'était on savait qu'il y avait certainement une prévalence relativement élevée dans ce groupe d'âge-là de maladies qui sont comme l'hypertension, l'hypercholestérolémie. Mais ce qui était plus étonnant, c'était que la majorité des gens qui étaient atteints de ces maladies-là ne le savaient pas, finalement, en fait. Donc, parce qu'on avait des mesures sanguines, on était capable d'identifier les personnes qui souffraient de ces maladies-là, mais qui ne le savaient pas, ou aussi des gens qui le savaient, mais n'atteignaient pas, finalement, les cibles thérapeutiques, finalement.
Tout à l'heure, en introduction, et c'était désiré, j'ai mentionné que vous pouviez aller jusqu'à demander le boulot de la personne.
Oui.
J'imagine que c'est une façon de voir, OK, telle personne avec tel genre d'études, tel genre de métier, les facultés cognitives sont conservées,
oui.
Tandis que dans un autre cas, ce n'est pas le cas.
Tout à fait. Donc, on a tout un programme, en fait, qui visait à avoir plus d'informations sur non seulement le titre de l'emploi, là, mais je veux dire avoir une idée de l'historique professionnel et de l'historique résidentiel. La raison pour laquelle on posait toutes ces questions-là, qui ne semblent pas nécessairement tout à fait reliées à la santé directement, on est capable d'attribuer des codes d'exposition, de risque selon certains types d'emplois ou de l'endroit où on a vécu au cours de notre vie. Donc, on crée à l'aide de matrices des facteurs de risque, là, des codes d'exposition pour nous permettre de voir dans le temps est-ce que ça a un impact sur la santé ou pas.
Donc, ça pourrait être une façon de dire, dans telle région du Québec, il y a plus de gens qui font, je ne sais pas moi, de l'asthme. Est-ce qu'on peut interroger quelque chose dans l'environnement?
Tout à fait. Il y a tous ces aspects-là. Il y a l'aspect, évidemment, pollution atmosphérique, mais il y a l'aspect aussi l'environnement construit, l'environnement dans lequel on vit. Est-ce que c'est un environnement qui est bon pour la santé ou moins bon pour la santé? Est-ce que ça nous facilite la vie dans le sens où on a plus tendance à marcher, faire de l'exercice ou non, finalement? Mm-hmm. Donc, c'est tous des facteurs qui sont, disons, directement ou indirectement reliés à la santé.
Et qui a accès à ces chiffres-là, Catherine? Parce que je me dis des décideurs politiques qui pourraient analyser ou du moins se faire expliquer ces chiffres-là, de dire, OK, il y a peut-être trop de pollution dans telle région du Québec, ben, on va aller parler aux usines. Est-ce qu'on peut aller jusque-là?
Oui, tout à fait. En fait, je pense que le projet avait vraiment cette vision-là d'être une plateforme pour la recherche, l'innovation. Puis ça, on parle de la recherche fondamentale, mais aussi de la santé publique. Donc, c'est de la recherche qui, disons, se traduit peut-être plus facilement dans les politiques. Alors, la plateforme a été vraiment développée pour les chercheurs, mais les chercheurs dans différents domaines. Et puis, c'est de mieux en mieux si les gens ont des liens avec les politiques et puis pour les mettre en application.
Parce que ça rend visuel les choses. Là. En tout cas, du moins, c'est beaucoup plus concret. Bon, je le disais tantôt, 40 000 Québécois qui ont participé depuis 2009 à cette vague de données scientifiques-là. Et là, c'est des gens choisis par hasard qui ont accepté finalement, là, qui ont sauté dans ce projet-là. Donc, comment expliquer l'intérêt des gens?
Je pense que, d'une part, les gens sont ouverts à l'idée qu'il va y avoir beaucoup de choses qu'on va pouvoir découvrir en connaissant les risques génétiques d'une maladie. Je pense qu'il y a un engouement pour ça, la promesse de la génétique et de la médecine personnalisée. Je pense que l'approche qu'on a utilisée aussi, c'était une approche qui était relativement personnalisée. Donc, les gens étaient choisis au hasard, mais ils avaient été sélectionnés pour être représentatifs de la population. Donc, ce n'était pas un appel au hasard qu'on faisait. On appelait une personne en particulier parce qu'elle elle était éligible finalement. Et puis, donc, il y avait un engouement, mais je ne pourrais pas dire qu'il y a un engouement pour tout le monde dans tous les strates. Donc, par exemple, les hommes participent un peu moins que les femmes. C'était plus difficile d'aller chercher les hommes que les femmes, les jeunes surtout. Mais je pense que de façon générale, au Québec surtout, on est assez ouvert à ça.
Mm-hmm. Pourquoi 40 à 69 ans?
Ben, on s'est dit que, bon, premièrement, on constitue une cohorte, il faut les suivre longtemps, mais il faut... c'est des gens qui vont développer des maladies dans les prochaines années, finalement, ouais. Malheureusement, mais c'est ça. Si on veut étudier des maladies, certains types de cancers, on sait qu'on va devoir suivre les gens très longtemps, probablement, surtout les cancers qui sont un peu plus rares. Mais on voulait aussi avoir la capacité d'avoir des nouveaux cas, finalement, de l'incidence de certaines maladies. Donc, entre 40 et 69 ans, on sait que certaines personnes vont développer des maladies chroniques.
Catherine Boileau, vous êtes associée de recherche pour le projet Cartagène. Pourquoi, et ça, vous l'avez dit plusieurs fois au cours de la discussion, pourquoi suivre toute leur vie ces gens-là?
On les suit toute leur vie parce qu'on a besoin d'avoir un résultat de leur santé. Donc, okay. C'est vraiment... L'idée, c'est de... Il faut qu'on suive la personne tant et aussi longtemps qu'elle est saine. Du moment qu'il survient un diagnostic ou bien un décès, on est capable d'attribuer un résultat, finalement. Puis on le sait qu'au temps zéro, on connaissait son risque d'exposition. On connaît le risque d'exposition de tout le monde. Et puis, en bout de ligne, on va pouvoir voir le parcours, en fait, de santé de tous ces gens-là.
Est-ce que vous pouvez intervenir du point de vue de la prévention, c'est-à-dire de dire à cette personne-là, OK, je vois ta courbe évoluer, je vois tes habitudes changer, bien, c'est là que tu te diriges. Est-ce que vous avez cette permission-là?
Bien, c'est-à-dire, de toute façon, en épidémiologie, on est souvent dans un paradigme d'observation. Hein. On est là pour observer ce qui se passe. On intervient, mais pas directement chez l'individu pour lui dire « Ah, attention, ça va ou ça va pas ». Mais on est là pour, de façon très transparente, donner de l'information. Donc, un participant qui va commencer à être suivi avec le projet Cartagène va avoir une idée, en fait, des tendances. Il va connaître va connaître son état de santé quand ils ont commencé le... Et puis, je pense que c'est de toute façon, quand on participe à un projet de cet ordre-là, c'est un peu une prise de conscience, en fait. Juste remplir un questionnaire puis dire « Ah oui, c'est vrai, ça fait 25 ans que je fume. Oui. » Déjà, c'est bon.
Oui. Évidemment, ça pose des questions du point de vue éthique. Est-ce que tout ça est confidentiel? Est-ce que les assureurs peuvent avoir accès à ces données-là?
Non, les assureurs ni les employeurs. Donc, il y a vraiment on met beaucoup, beaucoup d'emphase sur ça. Il n'y a pas d'accès. L'accès est vraiment pour des projets de scientifiques qui ont été évidemment vus par des comités d'éthique. Et puis, il n'y a pas d'accès. Nous, même au projet Cartagène, on n'a pas d'accès direct. On ne connaît pas les participants. On a accès aux données, mais on n'a pas accès aux participants.
C'est-à-dire, c'est ça, on peut voir les données, mais il n'y a pas de nom associé.
C'est ça. Tout est codé. Et puis, c'est vraiment dans des entités séparées. Les données de santé sont conservées dans une base de données, alors que les données nominatives qu'on appelle ou identifiantes sont dans une autre base.
Catherine, est-ce qu'il y a des projets de biobanque, hein, c'est comme ça que l'on appelle Cartagène, ailleurs dans le monde, des types de projets de cette envergure-là?
Oui, c'est assez tendance, là, les biobanques, il y en a beaucoup un peu à travers la planète. Et puis, je pense qu'il y a vraiment un engouement pour ce qu'on appelle « big data science », l'importance d'accumuler beaucoup de données. Cartagène fait partie de ça, disons, on fait partie de ça et on n'est pas nécessairement unique dans ce sens-là. Mais ce qui nous rend un peu unique, c'est que, ben, d'une part, je pense que la population québécoise est relativement unique. On a 6 millions de Québécois qui sont descendants d'environ 10 000 colons dans les années au 17e siècle. Donc, du point de vue de la génétique, c'est assez intéressant. Et puis, on est vraiment une cohorte qui est axée sur la profondeur de l'information. Donc, il y a peu de biobanques qui ont de l'information détaillée sur les expositions environnementales, sur les habitudes alimentaires et puis sur la capacité de suivre les gens dans le temps comme la nôtre.
Mm-hmm. Et je pense que l'une des autres choses qui peut-être vous distingue, vous rend unique là, avec Cartagène, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs qui ont accès à ces données-là. Il y a beaucoup de recherches qui se font. Combien? Est-ce que vous avez un chiffre approximatif?
Disons qu'on a ouvert nos portes en 2009. Le projet a été conçu pour être une plateforme ouverte pour faciliter la recherche. Donc, c'est vraiment pour la communauté scientifique. la communauté scientifique internationale. Donc, il n'y a pas restrictions sur qui va avoir accès à ces données-là. Évidemment, comme je le dis, il faut que ça soit de la recherche qui soit faite avec un encadrement éthique,
il y a un comité éthique, là, voilà.
Et aussi scientifique. Mais depuis 2009, on a environ, je dirais, une trentaine de projets qui sont en cours, qui ont été approuvés. Ça va faire boule de neige, en fait. Hein. C'est vraiment, les gens doivent reconnaître la qualité des données, des échantillons qui ont été collectés, et puis reconnaître aussi le fait que ça va faciliter beaucoup la recherche, ça va accélérer, donc, tout l'aspect collecte de données, tout ça, c'est vraiment pour épargner, sauver de l'argent, en fait. Toute cette partie-là n'a pas besoin d'être faite par le chercheur. Ils peuvent d'emblée commencer à faire les analyses sur les données ou sur les échantillons.
Oui. Et on a parlé jusqu'à maintenant, Catherine, beaucoup de prévention, de dresser un portrait, de collecte de données, mais tout ça amène à des diagnostics et des traitements. C'est ce qui est souhaité à quelque part.
Oui, on espère que... Il y a beaucoup de recherches qui vont être orientées vers la découverte de nouveaux biomarqueurs qui peuvent être des cibles thérapeutiques ou qui peuvent être des marqueurs prognostiques ou diagnostiques. Donc, surtout une meilleure compréhension des mécanismes, là, des maladies complexes qui sont multifactorielles. Donc, on espère que ça va se rendre jusque-là, effectivement.
Tout ça pour une meilleure santé de nous.
Oui.
C'est ça qui est de formidable. Bon, maintenant, c'est quoi la suite? Est-ce que l'on peut s'attendre à avoir un appel de votre équipe dans les prochains mois, prochaines années, pour nos données sans urine?
Pour les prochaines étapes, je pense qu'on a constitué une cohorte qui est suffisamment grande pour l'instant, 40 000 personnes, c'est plus que ce qu'on avait espéré. Mais donc là, l'idée, c'est de la fidéliser, donc engager les participants à continuer à nous donner de l'information. On va développer des outils qui vont nous permettre de recontacter les gens plus régulièrement, de leur offrir des nouvelles enquêtes qui sont peut-être des enquêtes complémentaires et puis exploiter ce qu'on a accumulé, la ressource qu'on a accumulée, donc les échantillons qui sont dans la banque. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qu'on peut tirer du sang et de l'urine qu'on a collecté, puis ça va être notre devoir là, de rendre ça accessible, finalement.
Oui, et une façon aussi, j'imagine, de revoir les traitements qui sont déjà en place et de se dire, est-ce que ces traitements-là ou les médicaments sont suffisamment efficaces et est-ce qu'on les prend comme il faut et l'importance de les prendre, là?
Oui, il y a un intérêt, il y a vraiment un intérêt sur ça. Je pense qu'il y a déjà deux ou peut-être même trois projets qui s'attardent particulièrement sur cet aspect-là. Donc, on a cette information-là, évidemment, parce que c'est déclaré par le participant. On connaît son état de santé, mais on a aussi accès aux bases de données médico-administratives qui nous donnent de l'information sur les médicaments. Donc, c'est très, très, très intéressant pour les chercheurs.
Oui. Bien, merci de créer ce portrait-là de notre santé. Catherine Boileau, je le rappelle, vous êtes épidémiologiste, je m'en viens bonne, et associée de recherche pour le projet Cartagène. Merci d'avoir été en studio.
Ça me fait plaisir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter. We'll be right back.
Yvan Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président directeur général de la Fondation du Grand Montréal et là pour nous présenter le bilan Signvito 2015, un portrait de la santé des résidents de la grande région de Montréal. Et on va commencer par les bons coups, M. Gauthier, parce que d'entrée de jeu, un chiffre plutôt saisissant, 93 % des résidents du Grand Montréal se disent satisfaits de leur vie. Ça, c'est assez réjouissant.
Oui, ben c'est un changement important par rapport, je dirais, aux années 2010-2012 où le Grand Montréal vivait des tiraillements évidents par rapport à sa gouvernance. On connaît les raisons. Depuis, il y a eu les élections et, je dirais, dans les villes de Laval, Longueuil, Montréal, il y a quand même eu des changements importants. Et surtout, Laval et Montréal, une augmentation du taux de participation à l'élection municipale. De sorte qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un tiraillement qui existait, qui s'est beaucoup atténué. Mm-hmm. Et ce qui a fait aussi, je dirais, qui a engagé des citoyens à contribuer plus activement au développement de la communauté. Là, on pense au mouvement « Je vois Montréal ».
Oui, « Je fais Montréal ». ».«
Je fais Montréal » puis « Je compte Montréal », tout le mouvement qu'il y a eu autour du comptage, du dénombrement du nombre d'itinérants à Montréal. Mm. Alors, il y a plusieurs initiatives vraiment de la communauté là qui ont pris place au cours des dernières années, qui nous font dire que, en plus du sondage, évidemment, dont vous avez cité le chiffre, qu'il y a effectivement un sentiment d'appartenance, un sentiment de satisfaction, qui se vérifie aussi par une légère hausse des dons en philanthropie. Uh-huh. Donc je pense que c'est un élément positif, comme vous le signalez.
Oui. Ce rapport-là, Signvito, est publié chaque année. Comment vous le construisez? Quels sont les critères évalués?
Ben, il y a depuis 2001, le Signvito a été créé pour la première fois à Toronto, okay, par la Fondation communautaire de Toronto. Et il y a une bonne âme à l'an, une soixantaine de fondations communautaires à travers le Canada, dans leur ville, qui publient les signes vitaux. Donc, il y a une espèce de corpus des chapitres partagés en commun. Donc, l'Association canadienne des fondations communautaires fait des commandes à Statistique Canada sur ces enjeux les plus importants et les communique aux fondations participantes. Donc, on reçoit à Montréal, par exemple, le taux en ce qui concerne la violence conjugale comparé, oui, aux grandes villes du Canada. Alors ça nous permet, dans un premier temps, de déterminer des points particuliers qui nous distinguent en bien, mm-hmm, ou en moins bien. Mm-hmm. Et là, on construit aussi à partir de nos propres statistiques québécoises, montréalaises, on complète l'information. Donc, globalement, c'est comme ça qu'est conçu le rapport Signvito.
C'est une façon aussi d'établir, de voir les besoins, de se dire, ben, c'est là qu'on va investir notre temps, notre argent. Maintenant, M. Gauthier, c'est quoi les bons coups en matière de santé de la population? Pour les résidents du Grand Montréal, bien sûr.
Bien, je pense que quand on parle de santé, on parle de santé physique, on parle de santé mentale. Mm-hmm. Alors, je vous dirais que dans un premier temps, c'est la connaissance plus approfondie, la comparaison, avec toujours l'élément de comparaison qu'on peut faire avec d'autres grandes villes, de, ouais, notre état de santé. Et physique et mental. Donc, il y a ce qui est positif, c'est quand même les gens vivent plus longtemps, globalement qu'auparavant. Donc, on prolonge la vie. C'est un problème, entre guillemets, pas un problème, mais une préoccupation de l'ensemble de nos sociétés, qui entraîne aussi une problématique, c'est-à-dire nos aînés, quels soins on leur apporte, ouais, quel soutien, mm-hmm, on leur apporte. Mais il reste que, je ne sais pas si on peut dire que c'est un objectif de l'humanité de vivre plus longtemps, mais c'est certainement un objectif de chacune des personnes de l'humanité d'avoir une vie qui soit plus longue.
Et en santé, le plus longtemps possible.
Et en santé le plus longtemps possible. Alors, quand on dit que les gens travaillent aussi plus longtemps, c'est certainement un signe qu'il y a une santé, un état fonctionnel qui se prolonge dans la société. Même si l'état de santé n'est pas parfait, quand on appelle ça l'état fonctionnel de santé, mais on reste capable de travailler sur une période beaucoup plus prolongée qu'auparavant, parce qu'on a évidemment des soins de santé qui ont beaucoup évolué depuis des dizaines d'années. Donc, tout ça reste une dynamique quand même assez positive, malgré toutes les problématiques qu'on connaît, c'est-à-dire le manque, l'accès aux médecins de famille, qui au Québec et dans le Grand Montréal reste un problème très important.
La pauvreté aussi, 145 000 personnes qui ont utilisé les services des banques alimentaires en 2010, ça demeure un problème, notamment sur l'île de Montréal, 25 % de la population vivent une problématique de pauvreté.
Alors, c'est même le chiffre que vous citez, c'est 93 % de la population du Québec qui utilise les banques alimentaires et dans le Grand Montréal.
Mm-hmm.
Alors, c'est vrai qu'il y a un taux de pauvreté plus important dans le Grand Montréal. Ça a toujours été le cas d'ailleurs dans les grandes villes. Les gens viennent s'y réfugier, entre guillemets, pensant trouver une meilleure qualité de vie. Mais
et plus de services.
Et plus de services, mais le problème reste quand même très important. Par contre, si à l'inverse, on peut dire que la société, la communauté s'est donné un filet de sécurité sociale vis-à-vis la grande pauvreté qui est important. Toutes les banques alimentaires, c'est des services communautaires que notre société s'est donné, qui sont très importants. On le voit avec le taux de pauvreté qu'on connaît. Et c'est un élément, là, je pense, qui est quand même essentiel là, au-delà des services que l'État donne. Nous, ce qu'on a dégagé, c'est que la communauté s'est aussi donnée, participe au filet social dont on parle beaucoup dans notre société.
Mais justement, en terminant, Yvan Gauthier, comment le citoyen peut faire bouger les choses? Je parle ici de parler à nos élus pour davantage de parcs, de pistes cyclables. Signvito, c'est une façon un petit peu d'illustrer c'est quoi les besoins, c'est quoi les priorités. Est-ce que vous pensez que les citoyens ont réel pouvoir de faire bouger les choses?
Bien, je dirais que je pense qu'ils ont un pouvoir plus grand qu'ils pensent, non seulement par rapport à faire bouger les élus politiques, mais par eux-mêmes, par leur force d'initiative. On voit que c'est par là que les progrès ont lieu. Le docteur Julien n'a pas attendu d'avoir tout les financements pour réaliser tous ces projets.
Tout à fait. Et on le voit avec Pierre Lavoie également.
Exactement.
Des fois, ça passe par une personne pour faire bouger toute une population. Merci, Yvan Gauthier. Vous êtes président directeur général de la Fondation du Grand Montréal et vous étiez là pour nous présenter Signvito 2015. On se reparle en 2016.
Merci à vous.
Portez-vous bien.
Au revoir.
Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Christiane Campagna à la recherche. Marianne Paquette au micro. Merci d'avoir été là. Nous, on est là encore toute la semaine, rendez-vous 14h. Portez-vous bien d'ici là. À demain. Bye-bye.